Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Denis Chagnon et j'ai le grand plaisir d'accueillir de nouveau à notre émission Yves de Belval. Ce globe-trotter philosophe, comme il me plaît de l'appeler, a visité plus de 90 pays. Sur les chemins de Compostelle, où toute cette grande aventure d'une vie a commencé, il a vécu pendant l'équivalent de plus de 2 ans, parcourant au total près de 17 000 kilomètres. Lors de la première saison de Marcher vers le bien-être, Yves nous avait parlé de sa riche expérience de randonneur au long cours. Pour notre deuxième saison de Marcher vers le bien-être, Yves nous invite à le suivre dans son cheminement et ses réflexions par le biais d'une chronique intitulée « Les chemins et leurs vertus ». Tour à tour, il nous entretiendra de la simplicité, de la générosité et autres vertus que nous amènent à découvrir les randonnées de longue durée. C'est toute une philosophie de vie qui se dégage de ces entretiens que j'ai eu le privilège d'amorcer cet été avec Yves alors qu'il s'apprêtait à repartir, et oui, pour un autre périple sur une route quelque part en Europe. Voici donc les deux premières de la chronique, les chemins et leurs vertus. Alors bonjour Yves et bienvenue à Marcher vers le bien-être.
Bonjour Denis.
Alors Yves, je le mentionnais en début d'émission, vous animerez au cours de cette deuxième saison une chronique régulière au titre évocateur « Les chemins et les vertus ». Nous vous avons entendu l'an dernier lors d'un épisode intitulé « Un globe-trotter philosophe » et que l'on peut d'ailleurs écouter sur le site jemarchepartout.com. Alors, avant d'amorcer votre première chronique, parlez-nous un peu de vous et de votre parcours qui a fait naître en vous, justement, ce globe-trotter philosophe.
Oui. Je vais m'en tenir à des éléments peut-être significatifs pour notre série. D'abord, ce qui a trait au voyage. J'ai voyagé pour toutes sortes de motifs dans ma vie. J'ai fait des voyages d'études. Mon premier voyage, ça a été des études de doctorat en Allemagne. Je n'ai pas eu mon doctorat, mais j'ai voyagé. Et plus tard, j'ai fait des voyages d'affaires. J'en ai organisé dans le cadre de mes emplois, ce qu'on appelait des missions à l'étranger. J'ai fait un long séjour d'une année à l'étranger avec ma famille en 87-88. Nous sommes allés passer l'année en Angleterre. J'ai passé des vacances à l'étranger. J'ai voyagé beaucoup en solitaire aussi. Mon plus grand voyage a eu lieu au début de ma soixantaine, donc au moment où j'étais jeune retraité. 3 ans environ autour du monde.
Merveilleux.
Ça, c'est toute une balade. C'est un voyage qui a débuté par un chemin de Compostelle. Je ne devais faire que le chemin de Compostelle et ça s'est transformé en voyage de 3 ans.
Vous vous êtes perdu.
pas tout à fait. Enfin, comme on dit, une de perdue, deux de retrouvée, je me suis retrouvé. Bon. Mon premier chemin, donc, c'était en 2005. Je reviendrai sur ces chemins à de nombreuses reprises au cours de notre série, Denis. Mais un peu malgré moi, et ensuite par un besoin de ressourcement annuel, et pour venir en aide aussi à des enfants pour lesquels j'ai marché, bien finalement, presque à chaque année, je me suis retrouvé sur l'un ou l'autre des chemins de Compostelle, si bien qu'au moment où on se parle, j'ai quelques 17 000 kilomètres de fait à pied. Oui, ça paraît énorme, mais c'est un petit peu comme partir pour 3 ans. Au début, ça apparaît long, et à la fin, c'est très court.
Alors, donc, amplement de temps pour vous d'apprivoiser le silence, de réfléchir au chemin et aux vertus. Dites-moi, Yves, vous avez choisi la vertu de simplicité pour nos premiers échanges. Dites-nous d'abord, c'est quoi pour vous une vertu?
Bon, une vertu, je prends le mot d'abord dans son sens latin, d'où il vient. Et c'est un mot qui dérive de « vir », qui signifiait la masculinité. Donc, la vertu pour les Romains, c'est d'abord et avant tout la force, c'est le mot-clé, la force masculine. Mais le mot a évolué pour finalement signifier encore la force, mais la force morale. Mmh. Disons, et j'aime bien remplacer parfois le mot vertu par l'énergie. La force ou l'énergie, celle qui fait qu'une femme ou un homme avance, meuble sa vie par la bonté, par le bien, plutôt que par son contraire, la méchanceté et le mal. Alors, la vertu, bien comprise, c'est la force ou un ensemble de forces du bien par opposition au vice qui, lui, est un ensemble, celui des faiblesses qui conduisent au mal.
Donc, qui dit vertu, dit ensemble des forces, énergie, qui rendent possible une vie bonne.
Une vie bonne, oui, et un bon chemin aussi.
Alors, un bon chemin qui est comme un symbole d'une bonne vie?
Tout à fait. Un bon chemin qui enseigne, qui apprend ce qu'est une bonne vie, à tout le moins dans mon expérience du chemin.
Et la simplicité maintenant? Pouvez-vous nous en donner votre définition avant de nous suggérer comment elle apporte une solide énergie à ceux qui cheminent comme vous, comme tant d'autres?
Moi, je vais faire un détour pour essayer de répondre à cette question. Je retourne dans ma jeunesse, dans mes années de jeunesse. Vous vous souvenez sans doute des opérations mathématiques que l'on apprenait à la petite école. Il y en avait quatre, mais en réalité, oui. Il n'y en avait que deux, l'addition et la soustraction, qui, quand on les multiplie, ben, donnent la multiplication et la division. Eh bien, la simplicité, elle est du côté de la soustraction ou de la division, qui n'est rien d'autre qu'une soustraction, comme je viens de le dire, multipliée. La simplicité, c'est donc un résultat. D'abord et avant tout, c'est un résultat. Ce n'est pas quelque chose qu'on a au point de départ. Et c'est un résultat qu'on obtient par des opérations de simplification. C'est un peu l'opération par laquelle nous passons du multiple vers le simple. Donc, quand on est dans la simplicité, on est dans une situation où on réduit, où on allège, où on fait des opérations de délestage, donc réduction, délestage. C'est les dimensions internes de l'opération par laquelle on arrive à la simplicité. Donc, la simplicité, elle est du côté du moins, du côté de la réduction, mais pas de n'importe quelle réduction. C'est la réduction qui a pour effet de nous rapprocher, de nous conduire à l'essentiel. Au strict nécessaire. Mm-hmm. Un mot simple, c'est un mot que tout le monde peut comprendre et qui n'est pas compliqué. La simplicité, dans ce sens-là, elle fait disparaître le complexe, peut-être même les complexes, et la lourdeur et la tension, le stress, la tension au sens du stress qui naît de la complexité.
Alors, qu'est-ce que la simplicité a à voir avec la marche, avec le pèlerinage comme Compostelle, par exemple? Vous qui êtes un pro là, avec vos 17 000 kilomètres de chemin.
Ouais. En chemin, la simplicité, c'est pas compliqué, elle est partout. Elle est présente dans la marche et aussi dans ce que j'appelle la démarche, c'est-à-dire dans l'action qui est faite et dans tout ce qui justifie et qui entoure cette action. Elle est au cœur du cheminement.
Alors, commençons par la marche.
D'accord. Simple comme bonjour, le chemin, posons-nous la question. peut-être pas si simple que ça. Pourtant, à première vue, marcher est une activité qui, comme bonjour, consiste à mettre un pied devant l'autre, rien de plus. Ben, ça serait parfaitement vrai si je marchais dans les nuages. mais prenons un exemple. Que faire quand j'ai devant moi des chemins qui s'étendent sur des centaines de kilomètres, sur des mois de marche?
Oui, justement.
Là, oups, ça apparaît compliqué. En 2005, mon premier chemin, j'avais devant moi 1500 kilomètres. J'étais à mes débuts, je n'avais aucune expérience de ce que c'était de marcher ainsi. Donc, je partais du Puy-en-Velay vers Compostelle avec cette perspective, 1500 kilomètres. Les années suivantes ont parfois comporté davantage. En 2018, c'était 2450 kilomètres. Je partais d'Innsbruck, en Autriche, vers Compostelle. Alors, comment composer avec ce qui paraît alors un défi insurmontable?
C'est effectivement tout un défi. Alors, comment on fait pour simplifier?
Bon. J'ai parlé tout à l'heure des exercices qu'on faisait à la petite école. Vous vous souvenez des exercices de calcul mental auxquels on nous invitait? Il fallait additionner dans notre tête pour trouver le résultat. Donc, le calcul, on l'a fait parfois au bout des doigts, mais on a fait aussi du calcul mental, un peu comme on marche au bout des pieds, si on peut dire. Alors, je fais une réduction mentale. C'est comme ça que je procède. Maintenant, je ne dirais pas que j'ai procédé comme ça dès le début, mais assez rapidement, j'ai découvert cette possibilité de procéder à une réduction mentale. Le mot qui illustre le mieux pour moi cette opération-là, c'est « je saucissonne ». Je détaille mon chemin en tranches aussi minces que possible. Alors, en une seule bouchée, impossible d'avaler un gros saucisson. C'est indigeste. Les centaines de kilomètres de chaque chemin, ou bien les quelques 25 kilomètres que je fais par jour, qu'est-ce que je fais avec ça? Je les découpe, je les défais en petits morceaux. Mm-hmm. Ainsi, j'arrive à perdre de vue les interminables distances. Alors, mes chemins, ça devient des suites d'étapes que j'aborde les unes après les autres. Et comment je procède? Bien, le soir, j'analyse les informations dont je dispose pour le lendemain, pour la prochaine étape. Mm-hmm. Alors, il y a des bourgs, des villages, des lieux de ravitaillement, des dénivelés, etc. J'ai tout analysé ça. Mais les autres étapes, celles des jours qui viendront après, je fous ça en arrière-scène. Là. Je ne veux pas avoir ça devant moi. Leur tour viendra bien quand ça sera le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Ben, avec cette technique-là, j'ai bien dormi, j'ai fait ma réduction mentale. Et au lever du jour, ben, je pars, disons, d'un village. Alors, la veille, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repéré la première balise, là, la première indication du chemin qui me conduit à sa sortie. Alors, demain, ou le matin quand je me lève, cette balise-là, là, c'est mon premier objectif. C'est mon seul objectif, même, je dirais, à l'heure du départ. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je m'en vais à cette balise-là. Ouais. Ce sera la première tranche là, de mon saucisson que je déguste, que je prends le temps de bien savourer. J'avale, je digère ça. Puis à la sortie du village, bien, là, je découpe à nouveau. Mon objectif peut être alors une ferme qui est à quelques distances. Et puis après la ferme, ça va être l'orée de la forêt ou un boisé qui s'annonce, ainsi de suite. Alors, tout est prétexte dans cette réduction mentale-là pour dépecer mentalement, en court tronçon, un trajet qui autrement apparaît considérable, énorme. Donc, c'est ça, je réduis, je simplifie. Puis, simplifier encore plus, bien là, ma marche, elle devient alors simplement un pas à pas. Rien de plus qu'un pas précédé d'un pas, un pas suivi d'un pas. Alors, vous voyez, Denis, c'est comme ça que je procède. Quelles que soient les circonstances ou les conditions, je veux avancer et j'essaie d'avancer dans cette simplicité-là. Chaque étape, donc, réduite à des petits riens. Alors, si j'ai appris ça en chemin, je l'ignorais au départ. Si je l'avais su, eh bien, je n'aurais pas eu les inquiétudes et les incertitudes qui ont marqué mes premières étapes. Je le dis pour nos auditeurs parce que ça peut les intéresser de savoir cela. La simplicité, ça prend. Et donc, on peut avoir au départ l'idée que c'est énorme, mais non. Ça s'apprend. Donc, peut-être que vous pensez actuellement, auditrice ou auditeur, que vous n'êtes pas fait pour cela, mais pensez-y un peu. Saucissonnez dans votre tête et vous allez voir que c'est plus simple. Bon, c'est une manière de vivre mon chemin. Ça ne m'obsède pas. Ça s'inscrit dans ma démarche comme une espèce de mécanique. C'est à l'image un peu des engrenages multiples de ma montre, enfin des anciennes montres, dont on oubliait le fonctionnement complexe, mais qui nous donnait l'heure juste. Et puis, il y en avait qui nous indiquaient les années, les jours, les heures, les secondes. Donc, en cours d'étape, ce sont les secondes de mon mouvement intérieur qui retiennent mon attention jusqu'à presque détacher le tic du tac, comme un de mes interprètes de musique classique préférée, Glenn Gould, qui détache de façon absolument extraordinaire les notes les unes des autres dans son interprétation des variations Goldberg. C'est un chef-d'œuvre d'exécution, j'allais dire à mes yeux, mais non, à mes oreilles. Donc, la virtuosité de l'artiste réduit l'œuvre à ces deux éléments les plus simples, la note et le silence. Une musique qui n'aurait pas le silence, comme un chemin qui voudrait être un grand pas et non pas un pas à pas, c'est pas possible. Il faut, dans la musique de Glenn Gould, la note et le silence et leur association, c'est ce qui produit la mélodie qui coule de source. Donc, je procède donc à ce découpage qui devient comme un automatisme qui libère mon attention pour d'autres activités, celles qui concernent le chemin physique et celles qui concernent la nourriture de mon chemin intérieur.
Ben, écoutons, Yves, justement quelques mesures de Glenn Gould et le début des variations Goldberg.
Ah, avec plaisir. Thank you.
Alors Yves, la simplicité change donc tout.
Bah, c'est une force, une grande force intérieure qui m'a soutenu en chemin. Pourquoi? Parce que une fois que je suis dans ce rythme que je vous ai décrit avant qu'on écoute la musique, eh bien, mon chemin va de simple regard en simple regard. Et là, je peux découvrir les uns après les autres, mais sans les anticiper, comme des milliers de chemins et toutes leurs nuances, leurs contours. Vous savez, les caprices qu'ils ont et leur beauté. Donc, les variations du chemin, comme les variations Goldberg, pour faire image, elles sont très nombreuses. Vous avez des chemins poussiéreux, mm-hmm, des chemins rocailleux, des chemins herbeux. J'en ai passé qui étaient des chemins sablonneux, certains chemins de halage. J'ai marché à travers les vignes, dans des montées abruptes ou douces, et parfois dans des très longues descentes. J'ai connu des chemins spongieux sur les feuilles d'automne, là, le temps venu, des chemins forestiers, des chemins goudronnés de campagne, des chemins pavés dans les villages, dans les villes. Bon, alors, ma marche, ça adapte si bien dans ce saucissonnage que j'avance parfois de manière inconsciente. Je vous jure, il m'est arrivé parfois parvenir en fin d'étape et de me demander, mais est-ce que j'ai vraiment marché? Pourquoi? Parce que les pieds s'en vont tout seuls. Vous me mettez deux bâtons dans les mains et puis les pieds partent les uns après les autres en se souciant pas de plus que ce qui se présente. Et ainsi, il m'arrive de pouvoir plonger vers les profondeurs du silence. Et cette simplification-là me conduit, je pense que l'expression qui me vient, ça me conduit vers l'unicité étale de l'être. Je parviens dans une espèce de banlieue, cette zone où je réside en silence. C'est l'entrelacement des tons et des notes, d'une part, et cette fois-ci, du silence, le mien, d'autre part.
Très beau. Très, très beau. Ouais. Est-ce que ça se déroule toujours de la même façon?
Oh! Ma meilleure médecine a parfois été de simplement avancer. Je vais vous donner une situation que j'ai connue. C'est pas vrai que c'est toujours simple au sens d'être facile. La simplicité n'est pas nécessairement la facilité. Je me souviens, cette fois-là, j'étais dans un village ruiné, dans l'Aragon espagnol. Ça s'appelle Ruesta. Ceux qui ont fait le chemin vont savoir de quoi je parle. C'est juché sur une colline. Et puis, ma nuit avait été difficile. Il y avait eu des orages. Et puis, j'avais un problème avec un genou qui était réticent. Alors, le matin, j'hésitais, j'appréhendais la douleur. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis parti. J'ai franchi le seuil de la porte. Et puis, je ne me suis pas retourné. J'ai fait un premier pas. Et là, c'est vraiment là qu'on voit que c'est le pas qui est l'essentiel. Il était fait, l'essentiel, il était accompli. C'est sûr, j'avançais plus lentement qu'à l'habitude, là. Poursuivait mon aventure. Mais mon cerveau a fait le reste assez rapidement. Il a négligé les messages négatifs en les écartant. Et puis, il n'a finalement plus tenu compte. J'avançais, tout simplement, j'avançais. Comme tant d'autres fois, là, mon corps s'était finalement fait loyal. Alors, donc, mon esprit, je peux dire, était libre. Malgré ses inconforts du petit matin, pour ses explorations diurnes. Puis, dans ce contexte-là, je dégustais la fraîcheur du matin et sa lumière particulière. Hein? Quand on marche comme ça, le matin, la lumière est horizontale. Elle vient de l'horizon, c'est pas une lumière verticale. Il se produit des effets de luminosité qui sont tout à fait uniques. Donc, j'étais dans le pas à pas. Ça m'a procuré une victoire que je ne recherche pas. C'est pas ça que... C'est pas une espèce de tactique, pas du tout. Mais parce que la simplicité n'est pas en quête de triomphe, mais elle peut répondre à l'adversité. Et dans ce sens-là, comme réponse à l'adversité, eh bien, la simplicité est sœur du courage.
Alors, Yves, vous parlez de simplicité et de courage. Le courage, c'est une autre vertu, non?
Absolument. C'était même la première des vertus pour les Romains dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, les vertus n'agissent pas isolément, là, ce ne sont pas des silos. Là. La simplicité est aussi complice de la tempérance, par exemple, qui est la vertu du plaisir. Il y a un grand plaisir et beaucoup de petits plaisirs à marcher lentement, à marcher simplement.
Et avec d'autres, donc, ça favorise la rencontre interpersonnelle aussi?
Et comment donc, tout à fait. Parce que la simplicité de la marche, elle décompresse l'esprit.
Oui.
Et c'est ce qui rend possible la communication avec la nature et, chemin faisant, la rencontre avec les animaux, dont on oublie l'existence quand on opte pour la vitesse, par exemple. Et je me souviens d'une scène, c'était à la sortie d'un assez gros village, Tria Castella, et puis j'étais sur le point de quitter la Galice. Je revenais cette fois-là de Compostelle, parce qu'il m'est arrivé aussi de faire le chemin aller et retour. Donc, je marchais vers la France. Et c'est un beau petit matin, là, imaginez ça, frais, quand on prenait une montée sur des kilomètres. Et puis là, j'aperçois une ribambelle de levrault, mais effrontée, et qui me monte le chemin. Ce sont des genoux, me suis-je dit. Ils sont inconscients du danger. Ils ne fuient même pas à mon passage. Alors là, je me suis mis à le taper dans les mains pour qu'ils déguerpissent, pour qu'ils prennent garde. Je leur ai dit, écoutez, là, faites attention, les jeunes. Là, vous pourriez finir en civet dans une sauce liée par votre propre sang, espèce de petit nono. Alors, pendant qu'ils fuyaient, enfin, à toute allure, ben, moi, j'ai entrepris ma longue ascension. Elle va meubler les 20 kilomètres qu'il me restait à faire ce jour-là. Alors, tout ici est affaire de pas à pas. Les levrault, écoutez bien, c'est ça la leçon que j'en ai tirée. Les levrault vont à leur rythme, à eux. C'est leur simplicité. Moi, il me reste à être assez simple pour aller au mien. Et je vais lentement. Et comme ça, je ne suis jamais à court de souffle. Ma respiration, elle demeure longue et profonde. Et si je forçais la cadence, j'en suis convaincu, tout se détraquerait. Alors, c'est la situation quand on force où on oublie. Alors, on se blesse, par exemple. Alors, quand j'y vais à mon rythme, j'oublie que je marche. Je marche, cela me suffit. Je marche, c'est tout. Donc, je suis... Je marche, donc je suis, voilà, il faut remplacer Descartes, là, je pense, donc je suis, par je marche, donc je suis. Et autrement dit, bouger, c'est vivre. Marcher, c'est bouger, bouger lentement. Les morts, eux, je les considère comme d'éternels sédentaires. C'est l'opposé total du vivant qui, lui, marche. Sauf, évidemment, les gens qui ont, hélas, des handicaps, des problèmes qui leur empêchent de marcher. Voilà. Donc, la simplicité de la marche induit la simplicité de la vie.
Une très belle première vertu, une très belle première chronique, Yves. Merci beaucoup. Alors, que nous réservez-vous pour la suite?
La prochaine, nous allons poursuivre avec la simplicité. Il y a tellement à dire sur la simplicité. Après avoir traité aujourd'hui de la simplicité de la marche, nous allons échanger sur la simplicité matérielle. Disons tout de suite ceci, là, que le long pèlerinage vers Compostelle, c'est l'antithèse de la consommation effrénée d'objets. C'est sur ce côté-là que nous irons la prochaine fois.
Un superbe sujet. Yves de Belval, merci beaucoup, notre globe-trotter philosophe. Belle visite et au grand plaisir de vous revoir, de vous écouter à la prochaine chronique.
Au plaisir.
Bonjour Yves et bienvenue à cette deuxième chronique, Le chemin et ses vertus. Encore un plaisir de vous voir.
Bonjour.
Alors, nous avons parlé lors de la précédente chronique de la simplicité qui tient avant tout à la marche. Il s'agit d'avancer, vous le disiez, pas à pas, à son rythme, et rien de plus qu'un pas suivi d'un autre pas et d'un autre encore. Mais un jour, comme vous dites, après des années de marche quotidienne, voici que des milliers de kilomètres ont été franchis par vous-même, justement, 17 000. Et dans votre situation, Yves, sac à dos. Et le sac à dos est un élément important de la chronique d'aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Avancer au rythme de mon pas à pas, sac au dos, je veux bien, mais je dois veiller à ce que ce sac soit le plus léger possible. Un sac léger, ça va nécessairement là aussi être le résultat d'un délestage, d'une simplification. Alors, pendant des mois, là, je vais pouvoir vivre avec presque rien. Lors de mon premier chemin, savez-vous combien pesait mon sac à dos?
Ou quelques kilos, j'imagine.
12 kilos.
12, c'est beaucoup quand même.
Oui, ça a été mon premier sac sur mon premier chemin. Actuellement, je marche avec un sac à dos qui fait 6,2 kilos. Hmm. En 2019, il faisait 6,5 kilos. Bon, ben, vous allez me dire 300 grammes, oui, mais ce n'est pas 300 grammes. C'est finalement un sac qui fait la moitié en termes de poids de ce que j'avais au début. J'ai donc abandonné des objets qui me semblait pourtant essentiel lors de mes premiers pas. On a toujours l'impression qu'on part avec le strict nécessaire, mais on découvre que, c'est pas ça l'ordre.
C'est comme les valises. Alors, que contient votre sac à dos?
Oui, c'est comme les valises. Pour une fin de semaine, deux valises. Pour trois mois en chemin, un petit sac qui fait 6,2 kilos. Bon, j'ai examiné une fois au Villard, sur le chemin du Puy-en-Velay. Je logeais près d'une magnifique halle au grain, là, très ancienne. Et puis, dans le petit gîte qu'il y avait là, j'ai fait l'inventaire de mon sac et de ce que je portais sur moi. Alors, je vous débite qu'est-ce que c'est que ça comporte. Deux paires de bas. Et vous? Pas 10, pas 20. Deux caleçons. Un T-shirt en mérino, un autre mérino, mais à manches longues. Mm-hmm. Bon, un coupe-vent à très léger. Et croyez-moi, il est très léger. Une toute petite serviette de type chamois pour après la douche. Un chapeau large bord contre le soleil. Une chemise à manches longues. Puis mon linge est disposé dans une pochette rouge, ce qui me permet de retrouver rapidement ce dont j'ai besoin dans mon sac. Alors là, vous avez fait le tour de mon linge. C'est tout.
C'est pas beaucoup.
C'est suffisant. Bon, à cela s'ajoute un poncho qui me permet de me couvrir quand il pleut. De me couvrir, ou ça serait mieux de dire de couvrir mon sac à dos. Dans une pochette noire, il est placé. Alors, regardez bien ça. Là. Ça, c'est pas nécessaire. Ça, c'est pas le strict nécessaire, je le dis tout de suite. J'ai placé un clavier rétractable de type Bluetooth avec son câble de rebranchement, deux prises de courant adaptées au système électrique européen, un câble pour le rechargement de mon portable. Donc, je pourrais, à la limite, ne pas avoir ça. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Écoutez bien ce qui vient, parce que c'est un bon exemple de simplification. Je porte sur moi un iPhone 8 Plus, mais j'en suis très fier. Et ça, je vous dis, je le considère pratiquement comme strictement nécessaire. Pourquoi? Parce que j'en fais un usage multiple. Je m'en sers pour mes appels téléphoniques, je m'en sers pour l'accès Internet, je m'en suis servi rarement, mais quelquefois comme GPS. Il me sert de lampe de poche, alors qu'au début, j'avais une lampe de poche. Il me sert d'appareil photo, alors qu'au début, j'avais en plus un appareil photo. Il me sert pour le stockage des informations relatives au chemin, alors qu'au début, je me promenais avec un guide du chemin, et parfois deux guides, parce qu'ils ne donnent pas toutes les informations. Et puis, puis, il me sert aussi pour la prise de mes notes personnelles, alors qu'autrefois, j'avais un bloc-notes. Donc, j'ai vraiment simplifié un seul objet pour tout cela. Il me libère donc d'un paquet de choses. Continuons la liste de ce que j'ai en chemin. Dans une pochette jaune se trouve ma pharmacie et les produits d'hygiène. Bon, c'est pas très gros. Je roule avec un savon, un seul, utile pour les cheveux, pour le corps et pour la lessive. Et je fais ma lessive à tous les jours. Donc, je transporte cela, un seul savon. Je transporte aussi une brosse à dents courte, de la soie dentaire, un petit tube de pâte dentifrice, pas un gros, un petit. Mes médicaments personnels aussi sont là, nécessaires. Puis aussi, j'ai ce qu'il faut pour le soin urgent des pieds. J'insiste sur le mot « urgent ». Il ne s'agit pas d'avoir une copie de sa pharmacie là, quand on fait des chemins comme je fais. Bon, il y a quelques piles électriques aussi pour mes prothèses auditives. Il y a une boîte à dentier. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Ah, ben mon sac de couchage, lui, fait 560 grammes. Il tient dans son enveloppe. Ah, puis j'oubliais aussi, j'avais noté au VR, dans cette liste-là, une tuque noir en micropolar, parce que j'avais prévu faire une étape de nuit en Espagne. Donc, je me suis dit, une étape de nuit, ça peut être froid. La tuque en micropolar. Je porte sur moi donc, une chemise en fibre synthétique à manches courtes, un pantalon fait de nylon, un caleçon. J'ai au pied soit mes chaussures de marche, soit des sandales imperméables très légères, utiles quand je suis au repos le soir, disons, puis que je veux que mes pieds soient plus libres, ou quand je vais à la douche. Et puis, j'oubliais, j'ai aussi mon passeport et mes cartes bancaires.
Alors, j'ai envie de dire, c'est tout?
C'est tout le matériel que j'ai en chemin. Pendant mon étape, environ 25 km en moyenne par jour. Je sue donc au gîte, à l'auberge, je lave ce que je porte et je mets sur moi le double que je transporte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une journée normale, j'ai porté pour marcher, on va utiliser le mot un ensemble, et puis mon deuxième ensemble, ben, je le porte le soir parce que j'ai lavé celui que je portais le jour. Et c'est cet ensemble que je porte le soir que je vais porter le lendemain puis que je vais laver, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça se passe.
Et c'est ce dont vous avez besoin quoi pendant des mois? Hein? Ça vous suffit?
En 2018, 99 jours de marche répartis sur 106 jours de calendrier. Ah ben j'oubliais la tuque. Et je n'ai pas eu recours à la tuque. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous que pendant mon étape de nuit, quand je suis parti à minuit le soir pour marcher sous les étoiles, il faisait 14 degrés Celsius.
Oups, donc, ça peut être utile.
Non, à 14 degrés Celsius, j'en avais pas besoin.
Alors, pendant vos chemins de Compostelle, Yves, vous vous en tenez donc vraiment au strict nécessaire?
Pas exactement. Pas exactement. Certes, tout, sauf la tuque, m'a été utile, mais utile ne veut pas dire strictement nécessaire. On s'illusionne beaucoup sur ce qu'on croit être nécessaire dans le monde des objets pour une vie bonne. Ma simplicité matérielle n'est pas parfaite. Simplicité parfaite, ça serait trop simple.
Alors, si j'ai bien compris, au fil de votre expérience, vous avez littéralement coupé de moitié ce que vous aviez dans votre sac.
Ouais, j'ai appris à réduire progressivement le nombre des objets que je transporte et puis, par conséquent, évidemment, le poids de mon sac. Chemin après chemin, j'ai allégé son poids. J'ai retranché des objets dont je n'avais pas vraiment besoin. Et puis, j'ai découvert des vêtements plus performants aussi et plus légers. Donc, je le dis encore une fois, il y a un apprentissage de la simplicité. J'ai appris à rechercher le strict nécessaire, mais je m'accorde quelques compromis, comme une trousse de premiers soins plus élaborée que nécessaire, pour donner un autre exemple.
Donc, on pourrait dire que dans la marche et dans la vie, c'est un peu la même chose. La simplicité vient progressivement, là, d'année en année ou de marche en marche.
C'est bien dit, Denis, c'est très bien dit. J'ai découvert un critère. Écoutez bien ceci. Pour savoir si je m'en tiens à l'essentiel, j'ai découvert ce critère-ci. Est-ce que quelqu'un que je rencontre fait le chemin sans un des objets que j'ai en ma possession? Médicaments mis à part, là. Ben, s'il fait son chemin sans cet objet-là, il prouve que c'est pas nécessaire. Donc, c'est une référence que j'ai utilisée pour me dire, ah ben oui, voilà. Alors, j'ai connu des pèlerins qui ont quitté le chemin pour ne pas avoir opéré le délestage. Et dans mon environnement, là, il y a des vieux de la vieille, des professionnels du chemin, qui conseillent aux novices de démarrer avec un sac dont le volume n'excède pas 40 litres et dont le poids n'excède pas 10 % de leur poids physique. C'est une référence imagée, hein, qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Le sac à dos du pèlerin, il a horreur du vide. Plus il est spacieux, plus le pèlerin le remplit. Donc, mon premier sac, avait un volume de 60 litres. Eh bien, je l'ai rempli. Celui que je porte maintenant fait 33 litres dans son contenu. Et le sac lui-même, sans son contenu, mon sac fait 980 grammes, alors que mon sac à dos, le premier que j'avais, faisait 2 kilos. Lui-même, seulement le sac. Donc, vous voyez, il y a moyen de réduire ici et là. Et puis, il y a un dicton aussi qui circule dans mon milieu, que le poids du sac, ben c'est souvent le poids de l'inquiétude émotionnelle. Mais ça peut être aussi le choix d'un confort là, non essentiel d'avoir un sac qui pèse davantage, mais il faut vivre avec la conséquence. Mais sachons une chose, c'est comme une espèce de conclusion pour mon intervention actuelle. La simplicité est toujours du côté de la légèreté.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a une relation de cause à effet entre les dispositions d'esprit et la légèreté du sac à dos, là, au point que certaines personnes, parfois, n'y arrivent même pas.
Certainement. Et dans les deux sens.
Dans les deux sens, c'est-à-dire?
Ben, une disposition spirituelle qui concentre l'esprit sur l'essentiel, ça aide à se délester matériellement. Ça, c'est le premier sens. Mais le deuxième sens, c'est le suivant. L'exercice du délestage matériel, il libère l'esprit et le pousse vers l'essentiel de la vie.
Donc, certaines personnes n'y arrivent pas.
Elles n'y parviennent pas ou n'y parviennent pas du premier coup. Ça dépend des situations et des personnes. Et puis, je le répète, l'excès de poids, c'est l'un des plus sérieux handicaps sur les chemins de Compostelle. J'ai connu des pèlerins incapables de se défaire de certaines habitudes, de certaines dépendances et des objets qui vont avec. Alors, à un moment donné, ils n'arrivent plus à avancer. L'excès de poids entraîne des maux de dos, des ampoules, des douleurs musculaires, des chutes, etc. J'ai tout vu ça, là. Pour ces raisons-là, il y en a qui quittent le chemin pour ces causes-là, je devrais dire. Il y en a qui quittent le chemin. J'en ai connu qui sont rentrés à la maison frustrés, hein? Puis ils ont réfléchi aux causes de leur échec et puis ils se sont délestés. Et puis, ben, ils ont repris le chemin, cette fois-là avec succès. Donc, on ne réussit pas nécessairement du premier coup.
Alors, Yves, encore l'apprentissage, n'est-ce pas?
Encore l'apprentissage et la prochaine fois, lors de notre prochaine rencontre, Denis, nous allons poursuivre sur ce thème de la simplicité matérielle.
Excellent. Alors, pour l'instant, écoutons une très belle chanson de Anne Sylvestre, Compostelle. Yves, merci beaucoup et à la prochaine.
À la prochaine.
Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, sac au dos, en humble pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève autant de poussière en mon pauvre jardin. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. Bien que je sache que rien ne m'attache et que je pourrais suivre aussi la même voie, c'est dans ma tête que toujours secrète se trace une route où je m'en vais parfois. La marche lente s'étire et serpente, je tangue et chemine le long des coteaux. Mais mon voyage n'est fait que de mirages, ô toi pèlerin, prête-moi ton manteau. D'envoyer quelqu'un à sa place marcher. Dans tes prières, sois mon mandataire. De mon catéchisme, j'ai tout oublié. Les paysages seront les bagages que tu garderas au fond de tes yeux clairs. Sous quelques toiles, à la belle étoile, tu feras ton lit dans la douceur de l'air. La route est longue jusqu'à Compostelle. Cette route, tu feras sans doute de belles rencontres, on te tendra la main. Et dans les gîtes où parfois on s'abrite, tu ne seras qu'un parmi d'autres humains. D'un pas tranquille, villages et villes défileront comme grains de chapelet. Si tu trébuches, ne crains pas les bûches, cette marche est bien celle que tu voulais. La route est longue. Aura baptisé ton voyage fervent, et quand plus vite tes pieds qui méditent t'auront emmené encore plus loin devant. Va faire escale auprès des cathédrales, n'oublie pas surtout de bien les saluer. Pour moi qui reste sans faire un seul geste et qui ne suis qu'une nomade arrêtée, la route est longue.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio VM ou grâce aux émissions qui y sont archivées. Aussi sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Alors, merci beaucoup à Yves de Belval, notre globe-trotter philosophe. Merci également à notre vaillant et enthousiaste technicien Xavier Gauvin. Et, comme toujours, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse sur cette pensée de Jean-Jacques Rousseau. Nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos yeux. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.